Si vous pouvez prendre vos Bibles dans 1 Timothée, s'il vous plaît. Alors, 1 Timothée. Chapitre 1. Vous pouvez prendre le verset 18, 19. En version Darby. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience que quelques-uns, ayant rejeté, ont fait naufrage quant à la foi. J'aimerais qu'on remette le verset 18, s'il vous plaît. Je te confie cette ordonnance ou cette injonction, mon enfant Timothée, ou mon fils Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles, donc par les prophéties, tu combattes le bon combat. Gloire à Dieu. Donc là, Dieu, au travers de l'apôtre Paul, nous donne une injonction à combattre un bon combat. Donc l'enfant de Dieu est censé combattre un bon combat. La foi chrétienne est censée être construite sur un combat. On est censé combattre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on combat ? Réfléchissez-y. Qui est-ce qu'on combat ? Est-ce qu'on combat quelque chose ? Est-ce qu'on combat quelqu'un ? Est-ce qu'on combat une idéologie ? Est-ce qu'on combat des éléments ? Est-ce qu'on se combat nous-mêmes ? Il est où ce combat ? Il y a un combat donc que le chrétien doit mener. La vie chrétienne est un combat. Mais contre qui ? Non, le diable a été vaincu. La Bible dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira. Luc 10, 19. Hein ? Oh, vous avez des bonnes idées. La chair a déjà été crucifiée. Colossiens 3, 3 dit, nous sommes morts avec Christ. Et si nous sommes morts, nous sommes vivants en lui. Notre chair est déjà morte. Ça, c'est une idée qu'on a beaucoup dans les milieux évangéliques, qu'on doit crucifier notre chair. Si on peut juste avoir ça, Colossiens 3, 3. Prenons son juste. Ça, c'est intéressant. Comme ça, on peut pointer du doigt. Les gens, ils vont dire, notre vieille nature, on doit crucifier notre vieille nature, notre chair. Ce n'est pas exactement ce que les Écritures disent, nous allons voir. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Donc vous avez, votre chair, votre vieille nature a déjà été crucifiée. Il n'y a pas besoin de la maintenir crucifiée ou de la recrucifier. Ça, c'est une idée reçue. Il n'y a pas deux natures en vous. Il y a juste un manque de bonne doctrine. Alors, le combat qu'on combat, ce bon combat, notez avec quoi on le combat déjà. Ça vous donne une idée de quel est le type d'adversaire à qui on a affaire. Avec quoi on combat ce combat ? Si on peut retourner dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Regardez bien. Avec quoi on combat ? Par exemple, si on doit combattre, par exemple, il y a cette idéologie maintenant qui se répand énormément dans les milieux scolaires, comme quoi on peut dire à un garçon qui peut être une fille. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Donc si je veux combattre ça, je ne vais pas aller avec un flingue là-bas. Vous voyez, si j'utilise telle arme pour telle chose, ça veut dire qu'on peut reconnaître l'ennemi selon ce qu'on est en train d'utiliser comme arme. Par exemple, il y avait un truc qui m'a fait rire quand j'étais petit. On avait des voisins qui avaient une magnifique piscine d'ailleurs. Il y avait des taupes dans leur jardin qui avaient fait des trous partout. Et le gars, il avait été acheté de l'essence, du diesel, et puis il avait rempli son jardin de diesel. Et toutes les taupes sont mortes. C'est un petit peu violent, mais ça a été efficace, ça faut le dire. Mais donc, selon l'arme qui est utilisée, on peut voir qui est l'ennemi, vous comprenez ? Si on a un ennemi physique, par exemple, en cas de guerre entre deux pays, ils vont utiliser des armes qu'on n'utiliserait pas si on combat une idéologie, par exemple. Quand on combat une idéologie, on va casser l'idéologie avec une meilleure idéologie, vous comprenez ? Quand on combat un mensonge, on va utiliser la vérité. C'est logique, hein ? Si on fait de la boxe, on va utiliser des gants de boxe. Donc là, il explique. Selon les prophéties qui ont été faites précédemment à ton sujet, afin que par elles, tu combattes le bon combat. Donc par quoi ? Par les prophéties. Qui sont effectivement la parole de Dieu. Ça, c'est une évidence. Hein. D'accord ? Donc, il y a des prophéties qui sont la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, elle amène quoi comme concept ? Elle transmet quoi, la parole de Dieu, de manière générale ? Elle transmet une doctrine. Elle transmet un enseignement, on est d'accord. Donc les choses contre lesquelles on combat sont les faux enseignements, les fausses idées de Dieu. Vous comprenez un peu l'idée, n'est-ce pas? Donc, ici, vous avez des prophéties qui ont été prononcées sur votre vie. Et vous dites, non, moi, j'ai jamais quelqu'un qui a prophétisé sur moi. La Bible est remplie de prophéties à votre sujet. Juste ça, ça devrait vous suffire. Mais là, il dit, afin que par ces prophéties, tu combattes le bon combat. Donc, il sous-entend qu'il peut y avoir des mauvais combats qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu. Ok? Ça, c'est intéressant, ça. Il ne dit pas que tu combattes le combat. Il dit que tu combattes le bon combat. Donc, vous savez, s'il y a un bon combat, il peut y avoir un mauvais combat. Logique. Hein. Donc, ce bon combat, c'est d'ailleurs le seul. Il ne dit pas les bons combats, il dit le bon combat. Donc, au final, l'enfant de Dieu n'est confronté qu'à un seul combat dans sa vie chrétienne, qui est celui de la défense des bonnes doctrines chrétiennes et de la destruction des doctrines antichrist. Antichrist, j'entends donc anti-Dieu. Vous voyez l'idée un peu ? C'est clair pour tout le monde ? Ok. De ce fait-là, il y a donc une compréhension à avoir par rapport au fameux bouclier de la foi. Ça veut dire quelque chose, le bouclier de la foi dans les Écritures ? Continuons juste une étude assez intéressante, un instant. Parce que, vous voyez, il y a cette idée qu'on doit... Il y a cette idée qu'on doit combattre le diable. C'est une idée fausse, ça. Le diable a déjà perdu. Le diable est vaincu. Regardez ça. 2 Corinthiens 2, 11. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être votre source de doctrine. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui peuvent même parfois venir de la Bible. Jésus a même été confronté à ça dans Luc 4, quand le diable vient et utilise la Bible pour essayer de lui donner une fausse doctrine. Ça vous rappelle quelque chose, ça. Afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins, ça veut dire ses plans ou ses manières de faire. Littéralement, ses prédispositions. Dites, je n'ignore pas ces choses-là. Donc, le diable est déjà vaincu en sa personne, vous comprenez ? Le diable ne peut pas remporter la victoire sur un chrétien. C'est physiquement impossible, si j'ose dire. C'est comme comparer, imaginez, si Victor voulait se battre contre moi. Il peut faire ce qu'il veut, mais... Oui, le petit Victor, vous voyez qui c'est ? S'il voulait se battre contre moi, il pourrait faire ce qu'il veut. Je gagnerais contre lui, c'est sûr. Donc, vous voyez, c'est physiquement impossible. Le diable ne peut pas avoir la victoire sur l'enfant de Dieu. C'est impossible. Impossible. Donc, quand il parle du bon combat, il parle quand même des desseins de Satan. Donc, il explique que Satan a des desseins. Regardons quelque chose d'intéressant, parce que nous n'ignorons pas ses desseins, justement. Ça veut dire que l'apôtre Paul aborde ça quelque part, c'est sûr. Sinon, il ne le dirait pas. Il a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Ce qui veut dire qu'il a expliqué à un moment ou à un autre quels étaient ses desseins ou ses manières de faire. Vous comprenez un peu l'idée ? Et j'aimerais que vous compreniez que les prophéties sont là pour vous donner une bonne doctrine. Parce que l'ensemble de la Bible, c'est une forme de prophétie générale. Hein. D'accord ? C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Que Dieu nous a donné les outils nécessaires. Prenons Éphésiens 6. Je vais lire les versets exacts. Éphésiens chapitre 6, je pense vers le verset 16, mais juste sûr. Verset 13 jusqu'au verset 16. Même verset 18. Parce que, dites, il y a des armes. Allez, il y a des armes à disposition pour mener le bon combat. J'aimerais qu'on voie. Parce que, vous savez, le diable, c'est le plus petit ennemi que vous ayez. Hein. D'accord ? Il est défait complètement. La traîtrise humaine peut être même plus grande que le diable. D'accord ? Vos propres mauvaises convictions peuvent être plus fortes que le diable. Ok ? C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Verset 14. Il nous explique, tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité. Ça veut dire la ceinture de la vérité. Donc vous mettez la ceinture de la vérité sur vous. Et ayant revêtu la cuirasse de la justice. La cuirasse, vous voyez, la justice de Dieu vous protège. Parce que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Continuons. Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Ça veut dire que là où vous allez, vous amenez l'évangile partout. D'accord ? Continuons. Et par-dessus tout, dites par-dessus tout. Qu'est-ce qu'il dit ? Prenant le bouclier de la foi par lesquels vous pourrez éteindre tous les dards ou tous les traits enflammés, littéralement, les dards enflammés du malin, du méchant. Donc, le diable envoie des traits enflammés sur le chrétien. Et la nature du bouclier, donc le bouclier, c'est la foi même, hein, c'est pas le bouclier de la foi, genre comme si la foi émanait un bouclier. C'est la foi même. Dites, ma foi est un bouclier. Contre les traits enflammés. Soyez sérieux, contre les traits enflammés du diable. Donc, regardez, il y a des traits enflammés du diable. Ça existe. Et l'enfant de Dieu utilise sa foi pour les contrer. Je vous avais dit quoi ? L'arme utilisée, ou plutôt, là pour le coup, la défense, l'outil utilisé détermine le type d'attaque. Vous comprenez ça, n'est-ce pas ? Donc, de nouveau, si vous faites de la boxe, et vous savez, pour s'entraîner, des fois, ils mettent ces... je sais pas comment on appelle ça PAO. Des PAO où on reçoit le coup de boxe dedans, c'est ça. Hein, donc c'est un truc qui est fait pour recevoir des coups de boxe, des coups de gants de boxe. Si on fait d'autres combats, par exemple si une personne est déployée dans les polices d'intervention terroriste ou comme ça, ils vont utiliser quoi ? Des gilets pare-balles qui vont définir quel type d'attaque viennent. Vous voyez ? Maintenant la foi. La foi est liée à quoi ? Romains chapitre 10 et verset 17. La foi est liée à quoi ? Exact. Exact. C'est ce qu'on va justement lire dans Romains 10, 17. Donc vous voyez, le type de bouclier, vu que c'est la foi, nous montre quels sont le type de traits enflammés. D'accord ? Vous suivez jusqu'ici. Hein ? Ainsi, la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient ou... Là, ils ne mettent pas, mais vient par la parole de Dieu. Donc, cette foi, c'est la parole de Dieu. Ce bouclier, il est le résultat de ce que la parole de Dieu amène. Et on a déjà vu dans l'école de fondation, la parole de Dieu amène la doctrine. La parole de Dieu amène l'enseignement de Christ, l'enseignement christique. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire que les traits enflammés du malin ne sont pas des attaques sur votre santé, ne sont pas des attaques sur vos finances, ne sont pas des attaques sur quoi que ce soit, mais ce sont des attaques sur la saine doctrine de Christ. Vous voyez ? Donc le diable ne peut pas attaquer votre santé, c'est impossible. S'il attaque, ça veut dire qu'on l'a laissé rentrer d'une certaine manière ou d'une autre. Mais ultimement, sur quoi le diable peut seulement nous faire tanger ? Et notez qu'il a dit, si on peut juste retourner sur le Éphésiens 6, parce qu'il a bien dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Donc on pourrait dire le bouclier foi. La foi est votre bouclier. Dites la foi est mon bouclier. Donc c'est pour ça que la foi est liée, vous comprenez, à la grâce. La Bible dit dans Éphésiens 2:8 qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Amen. Mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc les traits enflammés du malin par lesquels on utilise la foi pour les stopper, c'est bel et bien les attaques contre la saine doctrine. Et les chrétiens, ils doivent comprendre quelque chose. Le chrétien ne peut pas, sous aucun prétexte, être attaqué par le diable. Mais le diable, au travers de fausses doctrines, si la personne n'a pas le bouclier de la foi, la fausse doctrine, s'il n'y a pas de bouclier, le trait, il rentre. Hein. La flèche, elle rentre dans la personne. Elle rentre dans la personne, elle commence à opérer dans son corps, dans ses finances, dans sa vie et toutes ces choses-là. Et c'est l'air... Ça, je trouve rigolo. Vous avez vu aujourd'hui le sujet du Rhapsody ? Ça fait combien de temps que je vous dis de faire ça et que vous ne le faites pas, certains ? Il y a une raison pour laquelle je vous dis ces choses. Une raison. Regardez, la saine doctrine de Christ va vous protéger contre toute chose qui pourrait venir du diable. Et le diable ne peut vous attaquer qu'avec de la fausse doctrine. C'est ce qu'il a fait avec Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait avec Ève. Vous savez, il y a deux endroits où on voit vraiment, on sait pour sûr que c'est le diable qui parle. Il ne parle pas beaucoup, hein. Il n'est pas très smart, le diable. Il ne parle pas beaucoup, beaucoup. Il n'y a que deux endroits où on sait que c'est lui directement, parce que c'est dit « Satan dit ». Vous voyez ? Et on sait que c'est lui. C'est avec Ève et c'est avec Christ. C'est les deux seules fois où c'est arrivé. Il y a des endroits où on comprend que c'est lui qui était derrière l'œuvre, parce que la Bible nous le révèle après. Par exemple, quand il vient parler à Hérode pour dire de tuer les enfants. Vous voyez, on sait que c'est le diable qui était derrière ça. On sait aussi que le diable, des fois, il a parlé quand il possédait une personne. Donc la personne était possédée et elle a parlé. Mais moi, je parle où le diable a eu une conversation, pas juste où il a commencé à déblatérer des trucs. Et en plus, si vous regardez les gens possédés, ce n'était pas le diable lui-même. C'était des démons ou des esprits impurs qui les possédaient. Ce n'était pas le diable en personne. Parce que le diable, contrairement à Dieu, n'est pas tout puissant et pas omniprésent. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il n'est pas partout, il ne sait pas tout. Il n'est pas tout puissant, il n'est pas du tout ça. Donc Dieu peut vivre en Christelle, en moi, en Antoine, en Sacha, en même temps. Le diable, pas. Il ne peut pas être dans plusieurs personnes en même temps. Donc il n'y a que deux endroits dans la Bible où il parle. On sait que c'est lui qui parle. C'est dit « Satan dit ». D'accord ? Et les deux fois, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est attaquer la saine doctrine de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait chaque fois ? Il a pris la parole de Dieu et il a retiré une partie de la chose. Donc, regardez, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous dire ça rapidement. Vous savez quoi ? On va vite quand même le prendre. Où est-ce que j'ai mis ma vraie grosse Bible ? Je pense qu'elle est dans mon bureau. C'est pas grave. Elle au bureau, ok, alors, c'est pas grave, je vais prendre mon téléphone. Prenez Genèse. Vous savez, c'est pour ça que je vous encourage toujours d'aller à l'église, d'être construit par la parole de Dieu. D'avancer avec la rhapsodie, de lire des livres qui vous expliquent la parole de Dieu. Parce que ça va vous permettre d'arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Vous imaginez pas, il y a des chrétiens qui marchent par les signes. Ils attendent que Dieu leur envoie un signe. Genèse chapitre 3, verset 1. Tu peux mettre tout le chapitre 3. On ne va pas le tout le lire, vous en faites pas. Dites, je suis énergisé pour la victoire. C'est la vérité, vous l'êtes. Vous êtes énergisé. Pour la plus que victoire, en fait, si on regarde bien. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Est-ce que Dieu avait dit ça ? Vous êtes sûr ? Si, Dieu, il a dit ça. Bien sûr qu'il a dit ça. Il a dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Vu qu'il y en avait un qui était interdit à manger. Mais par contre, il a tourné la chose. Parce que Dieu a dit, vous pourrez manger de tout, sauf celui-là. Et lui vient et dit, vous n'avez pas accès à tous les arbres. Vous voyez ? Donc au lieu de mettre les yeux ou le regard sur la provision divine que Christ avait fait, que Dieu avait fait avec des milliers d'autres arbres, il a pointé du fait que pas tous les arbres sont accessibles. Au lieu de dire, il n'y en a qu'un seul. Vous voyez ? Donc là, il n'a pas menti. Et le truc intéressant, c'est que le diable n'est même pas capable d'inventer un truc de toute pièce. Vous allez voir. Et la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'y mouriez. Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez point. Ça, vous savez, hein. Dieu n'a jamais dit ça. Vous n'y toucherez point. Donc, elle a rajouté un truc, Ève. Donc, elle n'était pas dans la saine doctrine de Dieu. Continuons. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement. Et là, le truc dégueulasse, c'est qu'il a raison. Il a raison. Dieu n'a jamais dit, si vous le touchez, vous mourrez. Donc lui, il a pris cette petite partie-là, il a dit « Non, vous ne mourrez pas ». Et il a raison. Si Adam et Ève avaient touché l'arbre, ils ne seraient pas morts du tout. Dieu n'avait jamais dit ça. Même le contraire, parce que Dieu avait dit à Adam qu'il devait prendre soin de tous les arbres du jardin. Et pour prendre soin d'un arbre, ça implique qu'on doit peut-être couper les branches, qu'on doit prendre soin des racines et tout ça. Donc il devait prendre soin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous suivez jusqu'ici ? Donc Dieu avait dit un truc intéressant. Et là, le serpent, au niveau purement fait, n'est pas en train de mentir. Il a dit non, vous ne mourrez pas. Regardez, après, il dit exactement la même chose que Dieu, presque. Regardez ça. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et c'est vrai. C'était d'ailleurs le plan de Dieu. C'est qu'un jour, qu'on soit prêt, on mange ce fruit pour qu'on puisse avoir accès à la connaissance du bien et du mal et juger les anges déchus. C'est le plan de Dieu. Dieu n'avait pas créé cet arbre, vous savez, Jean. Je vais mettre mes enfants dans ce jardin et je vais créer un échappatoire au cas où ils ne veulent pas marcher dans ce que j'ai pour eux. Dieu n'est pas comme ça, il n'est pas pervers. Il a créé cet arbre pour qu'il puisse être utilisé. L'être humain devait, en accord avec Dieu... Oh. Regardez, c'est tellement profond, je vais juste vous dire ça. Vous dites, mais la Bible dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Oui, parce que l'être humain n'était pas encore devenu éternel. Le fait de percevoir jour, semaine et tout ça, c'est quelque chose pour les humains mortels. Vous comprenez, pour les humains de bas niveau. Mais une fois qu'on est éternel, la perception des jours et tout ça, ça disparaît. C'est pour ça que Dieu a dit « le jour où vous en mangerez, vous mourrez ». Parce que ça veut dire qu'ils étaient encore dans leur immaturité. Mais alors qu'ils allaient grandir avec Dieu, ils allaient être propulsés, c'était le plan de Dieu pour Adam et Ève, l'humanité, ils allaient être propulsés dans une connaissance absolue, dans l'éternité absolue en Christ, qui était déjà là d'ailleurs, Christ était déjà présent. Hein. Et à ce moment-là, ils auraient pu en manger. À ce moment-là, ils auraient été revêtus de la connaissance du bien et du mal. Et à ce moment-là, ils auraient pu régner. Est-ce que Dieu connaît le bien et le mal? Oui, bien sûr. Même là, c'est dit. Vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Dieu connaît le bien et le mal. Donc le diable, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu. Il a sniqué, comme on dit en anglais. Il a trafiqué la parole de Dieu pour en sortir une fausse doctrine. Vous voyez? Et à cause de ça, il a mené la perte de littéralement l'humanité entière. Prenons juste Luc 4 dans son ensemble. Bien sûr, on ne va pas tout prendre. Regardez, parce que c'est tellement intéressant. Et c'est pour ça que vous devez être fondé dans les Écritures. C'est pour ça que quand quelqu'un vient avec des pseudo-versets pour vous dire que Dieu permet la maladie, c'est non. Pourquoi? Parce que cette personne-là, sans même le savoir, est en train d'être utilisée par le diable pour essayer de faire rentrer la maladie en vous. Vous voyez? Regardez. Rappelez-vous que la Bible précise, le serpent était l'animal le plus rusé des champs que Dieu avait fait. Donc, Dieu, le diable peut rentrer dans n'importe quelle chose pour essayer de venir vous voler ce que Dieu a pour vous. Même un enfant de Dieu. Vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui ont simultanément le Saint-Esprit et le diable qui leur parlent. Beaucoup même. Or, Jésus, plein de Saint-Esprit, de l'Esprit-Saint, pardon, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert. Et étant tenté par le diable 40 jours, il ne mangea rien pendant ces jours-là, et lorsqu'ils lui furent accomplis, il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Une seconde, juste un verset. Le menant sur une haute montagne, ça veut dire le suivant sur une haute montagne, hein, littéralement. C'est pas genre le diable qui a pris Jésus, qui l'a soulevé comme ça, d'accord? Juste que vous sachiez. Verset 6. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et le « elle m'a été donnée » est vrai. Il ne mentait pas là. Adam, au travers de son péché, avait donné toute la gloire des nations à Satan. Regardez. Et je la donne à qui je veux. Là, il mentait, il n'allait jamais le faire. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Mais regardez bien, Jésus répond. Et Jésus lui répondant dit, il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Verset 9, regardez. Et il l'amena à Jérusalem et le plaça sur le faîte du temple, c'est-à-dire sur la bordure exacte. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Regardez bien. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. On peut retourner au verset 10, s'il te plaît. Donc là, le diable, il vient contre Jésus-Christ. Il utilise même un passage des Écritures pour essayer de justifier sa tentation. On a déjà vu ça. Qu'est-ce qui manque là? Le diable a pris un passage et il a coupé le reste de la phrase. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder. Vous savez ce que la Bible dit entièrement? Pour te garder dans toutes tes voies. Donc en supprimant le « dans toutes tes voies », il a essayé de faire croire à Christ quelque chose. Vous voyez alors, franchement, s'attaquer à Christ, c'est un petit peu le truc de Bobet parce que c'est la parole de Dieu incarnée. Donc franchement, il n'allait pas faire grand-chose. Mais au sujet de te garder, il a coupé le « dans toutes tes voies ». Pourquoi? Parce que « dans toutes tes voies », ça implique te garder contre le diable. Donc il se serait auto-disqualifié en proclamant ça. Mais là, il a coupé. Il a dit « il donnera des ordres à ses anges de te garder ». Coupé. Et il a fait croire que ce verset voulait dire « tentez Dieu en faisant des trucs lunaires et en espérant que Dieu envoie un ange pour nous sauver ». Vous voyez? Et donc, c'est ça, le diable, son seul modus operandi. Operanda ou operandi? Merci. Sa seule manière de faire, voilà, je crois comme ça règle le problème. Sa seule manière de faire, c'est de prendre la parole de Dieu, la tordre, l'envoyer contre nous, et nous, c'est par le bouclier de la foi qu'on bloque ça. Et votre foi est énergisée pour la victoire au travers de la parole de Dieu. C'est pour ça que la rhapsodie est importante. C'est pour ça que la lecture des Écritures quotidiennes est importante. C'est ça qui va vous projeter dans une vie de victoire continuelle et une vie d'avancement continuel. Vous savez le nombre de choses fausses, les fausses idées qu'on peut avoir de Dieu. On a vu à la cellule que la personne qui avait la fausse idée de Dieu, c'est celle qui n'a jamais fait prospérer la grâce que Dieu lui a donnée. Vous imaginez un peu? Quelle honte d'arriver devant Dieu et d'avoir rien fait pour lui. Non, ayez une juste doctrine de Dieu. Ne laissez pas les fausses doctrines venir. Ne laissez pas les faux enseignements venir. Ne laissez pas le diable prendre la parole de Dieu et la pervertir en vous faisant croire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il prend la parole de Dieu pour la pervertir? Parce qu'elle a une autorité naturelle. La Bible a une autorité naturelle. Même à un non-croyant, quand vous dites « la Bible dit », la plupart, ils prêtent quand même attention hein, en disant « ah, ok ». Dites « je suis énergisé pour la victoire ». Je réussis de tous côtés. Donc j'aimerais vous apprendre à faire ce bon combat. Si on peut retourner dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18, s'il te plaît, Angel. Regardez, c'est comme ça que vous gagnez. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat. Donc il y a des prophéties qui ont été faites à votre sujet. Et ces prophéties, elles peuvent être de diverses sources. Mais manifestement, c'est beaucoup via la Bible. La Bible vous montre des prophéties. Et pour exemple, la prophétie ne veut pas forcément dire prédire le futur. Hein, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire ça. Hein. Ça, souvent, ça peut dire ça, mais ce n'est pas seulement ça. Par exemple, si je dis à quelqu'un, tu es béni, c'est une prophétie. Donc, c'est marrant parce que si, on va pas le prendre, mais si on retourne dans Éphésiens 6, on n'a vu que des choses défensives, vous savez, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Et la seule chose offensive, c'est quoi? La parole de Dieu, qui est dans notre bouche. Et donc, vous devez parler les prophéties. C'est pour ça qu'on fait tellement de confessions aussi. Vous avez remarqué le nombre de confessions qu'on fait tout le temps? On confesse la parole de Dieu encore et encore et encore. On prend la rhapsodie, on fait les confessions de santé divine, on fait les confessions de prospérité. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont on combat. La parole dans votre bouche, dites la parole dans ma bouche. Et regardez, vous prenez ces choses-là et vous commencez à prier dans les langues de l'esprit. Vous mélangez ça avec vos langues et vous parlez ensuite ces paroles de prophétie. Vous savez qu'on peut prophétiser en langue? Et quand vous prophétisez en langue avec en tête cette prophétie, en mots humains qui vous a été donné, c'est des mots qui partent dans l'esprit et qui transpercent n'importe quelle chose que le diable peut attaquer contre vous. N'importe quoi. Et c'est pour ça que vous devez être ferme dans la doctrine. La Bible dit, soyez établis dans la parole de grâce. Car il est bon que le cœur soit affermi dans la parole de grâce. Et vous savez, il y a des gens qui vont venir avec des fausses doctrines et essayer de pervertir votre point de vue de Dieu. Beaucoup. Et souvent, c'est les enfants de Dieu. Rappelez-vous que Satan était enfant de Dieu à un moment. Hein. Vous vous rappelez de ça? Avant d'être déchu, il était enfant de Dieu. Il était ange de Dieu. Donc, des gens même qui sont des frères et sœurs dans la foi peuvent vous donner des fausses doctrines. Faites très attention et soyez affermis dans la doctrine de Christ. Amen. Dites, je suis affermi de toutes parts. Et la semaine prochaine, nous allons étudier sur comment faire la guerre, alléluia, avec ces prophéties. Comment, si le diable essaie de vous envoyer un truc. Je vais vous montrer comment vraiment le faire au niveau pratique. J'accélère un peu parce qu'on a deux messages et je ne veux pas que chaque message dure une heure. Vous voyez? Donc j'ai fini pour cette partie-là. Gloire à Dieu. Mais vous devez être formé et affermi dans la parole de grâce. Vous devez être absolument fondé dans les Écritures. Rien ne doit venir voler votre persuasion de Dieu. Rien. Dites, je suis plus que vainqueur. Et je suis énergisé pour Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. C'était une petite exhortation pour vous, mais soyez affermis dans les Écritures. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. J'aimerais qu'on puisse prendre dans la suite du culte.